14h, 16h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europe 1.
Europe 1.
Europa 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Esther Lenneman.
C'est la patte des carnets du monde. Chez nous, actualité, ça rime toujours avec international. Et c'est vrai aussi de l'actualité française. Alors cette semaine, le club de la presse des carnets du monde parle italien et néerlandais. Bonjour Alberto Toscano.
Buongiorno.
Alberto, vous êtes correspondant du quotidien économique Italia Oggi et président du club de la presse européenne à Paris. Bonjour Stéphane De Vries.
Goedemiddag.
Stéphane, vous êtes le correspondant de la télévision néerlandaise RTL News. Alberto et Stéphane, vous connaissez nos mœurs. J'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention notre dernière polémique politico-sportive. On va rappeler très rapidement, il y a une semaine exactement, Manuel Valls justifiait son voyage éclair Paris-Berlin en Falcon pour un très beau match de foot, en disant qu'il est Premier ministre, qu'il se déplace avec les moyens qu'on connaît et que c'est un faux débat. Vous vous souvenez? Ce qu'il avait oublié de dire, c'est que deux de ses trois fils l'avaient accompagné à Berlin. Résultat, jeudi, cinq jours plus tard, il annonce qu'il va payer le voyage de ses fils, 2500 euros, et ajoute que si c'était à refaire, il ne le referait pas. Alberto, ce n'est pas tout à fait une excuse, mais presque. Quelle est la signification politique de cet épisode?
Bon, il y a eu rien d'illégal, mais sans doute, il y a eu un acte de maladresse. Autant plus grave parce que la personne qui l'a commis est une personne qui cultive l'art de la communication et qui est très habile sur ce terrain. Et il y a eu trois points qui sont, à mon avis, critiquables et que j'ai dit très rapidement. Un, il a quitté le congrès du Parti socialiste en montrant ainsi qu'il n'attribue pas beaucoup d'importance au débat et aux coulisses de ce congrès. En effet, il a raison parce que tout a été décidé d'avance au congrès du Parti socialiste. Deuxième élément, il est en contradiction quand même avec ce que François Hollande et lui-même Manuel Valls ont dit à plusieurs reprises, que ce gouvernement aurait eu de méthodes absolument exemplaires sur le terrain de la transparence. Là quand même, il y a eu une petite entorse à ce principe. Et troisième élément, il s'est un peu engouffré dans une série de justifications qui ne tenait pas debout. Ceci dit, je pense que la page doit être tournée, qu'il y a des problèmes bien plus sérieux que celui-ci et que les dernières expressions qu'il a utilisées ne sont pas des excuses directes, mais entre les lignes, il s'est excusé avec les Français.
Bon, tolérance italienne pour une incartade d'un homme politique. Stéphane De Vries, en fait, c'est une tempête dans un verre d'eau.
Bah, aux Pays-Bas, il aurait déjà démissionné, absolument.
Ouais, ouais. Pourquoi?
Parce qu'il donne une image qui est exécrable, la fonction publique, la plus haute fonction, c'est-à-dire Premier ministre. Il y a quelques mois, aux Pays-Bas, il y a un député qui a dû démissionner parce qu'il avait mis une bouteille de vin de 127 euros sur sa note de frais. Ça a créé une énorme tempête dans une verre de vin. Et donc, il a démissionné pour 127 euros. Pas pour ce montant, mais parce que, justement, ça donne une mauvaise image d'un député. Et là, en l'occurrence, je trouve que Manuel Valls, il a fait une succession de fautes, des quasi-mensonges. En fait, là, ce qu'il vient de faire cette semaine, il n'a pas dit « mea culpa », il a dit « eorum culpa ». Donc c'est leur faute, la faute à ses communicants, parce qu'il a parlé d'une faute de communication. Donc en fait, là, il montre qu'il n'a vraiment rien à faire de cette polémique. Et pire, il paye 2500 euros pour une sorte d'absolution. C'est sa réaction d'un ultra-catholique, parce qu'on pense qu'on peut acheter l'absolution. Donc voilà, c'est une succession d'erreurs, non seulement de communication, mais aussi des erreurs politiques.
Alberto, est-ce que c'est simplement Manuel Valls qui est affaibli par cet épisode? Est-ce que c'est l'ensemble du gouvernement? Est-ce que c'est l'ensemble de la classe politique?
Oui, moi je pense que la portée de l'épisode en soi, bien qu'il s'agisse évidemment d'une bourde, doit être quand même un peu redimensionnée et dont je pense que ça va sans doute affaiblir le gouvernement pour l'instant, parce que par les temps qui courent, ce type d'épisode laisse des traces dans la perception que le citoyen a de la politique. Parce qu'il se rajoute à 1000 signaux de difficultés, de malentendus entre le citoyen et l'ensemble des institutions.
C'est un détail de coulisses, mais l'un des amis de Manuel Valls, qui est son communicant, et Stéphane Foulkes, qui était aussi le communicant de DSK, on s'en souvient. Est-ce qu'il y a un problème de conseil en communication de l'ensemble de la classe politique ou en tout cas des dirigeants du PS, Stéphane De Vries?
Je pense qu'il y a un problème déontologique, c'est-à-dire qu'en tant que gouvernement, on ne peut pas payer des agences extérieures pour faire la communication. J'estime que ça devrait être une tâche des fonctionnaires, du ministre ou des ministères. C'est très dangereux. En France, je sais que c'est très courant. Il y a plein d'agences qui gagnent énormément d'argent avec ce genre de conseils. Et finalement, on l'a vu encore cette semaine, ces conseils ne servent pas à grand-chose.
Il n'y a pas de conseil en communication en Hollande?
Oui, mais par des fonctionnaires, en fait. Donc il y a des fonctionnaires qui parfois viennent du privé, hein, parce que ça c'est très courant aux Pays-Bas, qui ensuite conseillent le Premier ministre ou les ministres en général. Mais il n'y a pas de boîte de com' qui sont impliqués dans la communication.
Alberto, une dernière question sur ce sujet. On a quand même vu une évolution en France. De l'époque où François Mitterrand emmenait Mazarine, sa fille, et sa deuxième compagne, Anne Pinjot, à Venise aux frais de l'État, jusqu'à aujourd'hui, où au bout de 5 jours, le Premier ministre reconnaît qu'il a commis une erreur.
Oui, je vous raconte une anecdote. Il y a eu à Rome, un spectacle de théâtre, procès à Mitterrand, une série de spectacles sur les procès aux personnages historiques. Je me suis trouvé à être l'accusateur. Et l'un des éléments que j'ai dit est justement l'utilisation des avions de la République. Par exemple, le fait qu'un avion de la République a dû aller dans le sud de la France pour chercher le chat de Mademoiselle Mazarine. Alors, il y a eu une époque où il y avait sans doute une utilisation assez légère des moyens que la République met à disposition de puissants. Et cette époque est heureusement terminée et je crois que le pouvoir actuel fait beaucoup plus d'attention qu'avant sur ce terrain, mais le pouvoir actuel s'est mis en contradiction avec lui-même et avec certaines promesses qu'il avait faites pendant la campagne électorale.
Bon, on passe à un sujet plus grave, Stéphane. Je sais que vous avez suivi avec attention la suite de l'affaire Vincent Lambert. Bon, je rajoute en un mot, Vincent Lambert, état végétatif depuis 6 ans. Son cas vient de faire l'objet d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on ajoute le dernier élément en date, une vidéo qui circule, qui a été reprise d'ailleurs par les télévisions, où on le voit pendant quelques secondes, on le voit qui réagit à son environnement. Alors après, à l'interprétation de chacun, d'en tirer des conclusions. Votre réaction, Stéphane De Vries?
Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas juger s'il y a vraiment eu une réaction, mais c'est un manque de respect total pour le patient en question.
D'avoir diffusé cette vidéo.
Absolument, oui. Je comprends très bien que les parents peut-être sont affolés ou ils ne peuvent pas faire face à l'idée de perdre leur fils. Mais de là, l'utiliser comme un outil de communication, c'est dégoûtant et ça montre à quel point en fait ce débat est très pollué, surtout autour de la question de la fin de vie. C'est un sujet qui reste très difficile. En France, à chaque fois, on traîne avec ce sujet. On a la loi Leonetti, mais qui est vraiment pas adaptée à la réalité. Donc, ça montre encore une fois que ce débat, et je parle notamment de débat autour de l'euthanasie, est instrumentalisé, surtout par ceux qui sont contre.
Et quand vous en parlez à vos téléspectateurs en Hollande, comment est-ce qu'ils voient les choses? En fait, quel est le message que vous leur donnez?
Quand j'en parle, c'est très difficile à expliquer aux Néerlandais parce qu'au Benelux, il y a l'euthanasie depuis quasiment 15 ans. C'est pas du tout controversé, c'est quand même très bien accepté au sein de la population. C'est quelque chose qui est très humain. Moi-même, mon propre père a été euthanasié et à l'époque, j'étais bien content de pouvoir le faire ou pouvoir donner mon accord parce qu'il habitait aux Pays-Bas et donc il n'a pas beaucoup souffert. S'il avait été hospitalisé en France, il aurait souffert beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Donc, je trouve que l'euthanasie, comme elle existe aux Pays-Bas, en Belgique, c'est extrêmement humain. Et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire un vrai débat sur ce sujet. Et en première place, ce sont les politiques qui évitent ce sujet parce qu'ils savent très bien qu'il y a peut-être un petit groupe, une minorité, qui est très virulente contre ce sujet. Et là, on voit encore cette semaine que les gens sont prêts à tout pour combattre l'idée de l'euthanasie.
Alberto, vous avez l'air pas d'accord avec ce que vient de dire Stéphane De Vries.
Non, je ne suis pas d'accord sur la question de la diffusion des images. Je pense que ce qui a été fait en France a été une censure de crypter les images. Je pense qu'aujourd'hui, le citoyen accède aux images à travers l'Internet, dont il est un peu hypocrite le fait que les télévisions décident de ne pas diffuser ou décrypter ces images. Ceci dit, évidemment, le débat est très compliqué. Je ne prends pas position sur le débat en soi et sur la question de Vincent Lambert, mais je prends position sur le fait qu'à mon avis, les images devaient être diffusées.
Bon, allez, on va terminer rapidement sur une note plus légère. Alberto Toscano, vous avez une opinion sur le débat sur l'enseignement du latin. Et laissez-moi deviner, vous pensez qu'il faut enseigner le latin ?
Mais je suis content parce que ce débat sur la réforme des collèges a quelque part permis aux amis du latin de s'exprimer, pas toujours en latin. Et ils disent à Madame Vallaud-Belkacem, qui a essayé quelque part de mettre un peu de côté l'enseignement de la langue latine, ils lui disent « Ego te absolvo a peccatis tuis », c'est-à-dire le péché d'avoir essayé de faire ça et pardonner à Madame Vallaud-Belkacem qui a fait un peu marche arrière ensuite, mais à la condition que errare humanum est, perseverare diabolicum. On peut se tromper une fois, mais il ne faut pas persévérer. Et enfin, tout bouge. En grec, comme le disait Héraclite, c'est ta panta rei.
C'était le club de la presse des Carnets du Monde. Merci Alberto Toscano, merci à Stéphane De Vries et on espère vous retrouver très bientôt dans les Carnets du Monde. Dans un instant, on retrouve Nicolas Caro et un grand romancier italien, Italo Calvino.
FNAC. Esther Lineman sur Europe 1.
Europe 1.
Et Europe 1.
Les Carnets du Monde.
En français dans le texte.